Avec ce colloque, nous allons d'étonnement en étonnement. Après le commerce du sang, la soif du sang. Image antique du cannibale entre barbares sanguinaires et hérétiques perfides. Madame Maurizy Nagy, je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Selon le témoignage des sources anciennes, le sang arrose abondamment les autels sacrificiels partout dans le monde antique, que ce soit en Grèce, à Rome, en Égypte, en Judée, en Gaule, et partout dans le monde connu de nos auteurs. Le sacrifice sanglant, qui est suivi d'habitude par un repas, par un festin, où la viande de l'animal sacrifié est partagée entre les participants, est en effet une pratique très largement répandue au-delà des frontières ethniques, linguistiques ou religieuses. Quelle que soit l'interprétation fine ou précise que les exécuteurs peuvent donner à cet acte, il est évident que pour eux, il s'agit de quelque chose de positif. Donc le fait de faire couler le sang d'un animal et l'offrir au destinataire du sacrifice, c'est quelque chose de positif. On est quand même en droit de demander, mais qu'en est-il du sang des hommes ? Est-ce que le sang des êtres humains est tout aussi agréable aux dieux que le sang des animaux ? Je ne veux pas entrer dans la question très débattue sur la réalité ou non-réalité du sacrifice humain dans l'Antiquité. 25 minutes, ça ne suffit certainement pas pour ça. Je vais donc me contenter tout simplement de la réponse donnée à cette question par des auteurs grecs et romains, parce que ça suffit pour comprendre leur raisonnement sur ce point. Or, cette réponse est double, à la fois positive et à la fois négative. D'un côté, ils rejettent avec l'horreur l'idée que les dieux puissent se réjouir du sang des hommes sacrifiés. De l'autre côté, ils reconnaissent quand même que, dans certaines circonstances, ça peut être quand même un mal nécessaire et que les dieux sont en droit de demander ce genre de victimes. Ainsi, les Grecs s'accordent à dire que dans le passé, même leurs propres ancêtres pratiquaient le sacrifice humain, et même fréquemment, c'est une pratique tout à fait normale, mais qu'à un moment donné, c'était aboli. D'ailleurs, les dieux interviennent pour abolir ce sacrifice, et que dans les temps historiques, ce n'est que d'une manière absolument exceptionnelle que ça peut arriver. En ce qui concerne les Romains, à ma connaissance, aucune source ancienne ne met en cause la réalité de sacrifices humains accomplis à Rome même, dans la ville, sur le Forum Boarium, et ce, au moins à 3 reprises dans l'histoire romaine. Juste entre parenthèses, c'était quand même un sacrifice où le sang n'a pas coulé. Mais quand même, c'était quand même un sacrifice humain. Le plus surprenant, que même les plus farouches opposants au sacrifice sanglant, au sacrifice des animaux, notamment les philosophes à tendance végétarienne comme Théophraste ou plus tard Porphyre, admettent la nécessité de sacrifier un être humain si les circonstances l'exigent. Toutefois, tous nos auteurs s'accordent sur un principe fondamental. Non seulement ce sacrifice doit rester exceptionnel, mais le sacrifice humain, contrairement au sacrifice des animaux, doit rester adaitos, c'est-à-dire sans suivi de festin. Ce n'est pas parce que la nécessité impose le choix d'une victime humaine que sa chair et son sang deviennent licites pour la consommation. D'ailleurs, rien que le fait d'ouvrir l'abdomen pour examiner les entrailles pour la divination est déjà considéré comme un acte néfaste. D'ailleurs, l'existence même de cette interdiction entourant la victime humaine suggère le caractère particulier, je dirais même redoutable, de ce genre de sacrifice et des pouvoirs néfastes liés au corps de la victime. La mythologie, tout aussi bien que l'historiographie antique, met en garde contre les dangers du cannibalisme, car il semblerait que la victime humaine, le fait d'avaler une partie du corps ou du sang humain, est contagieux, ça contamine même la personne qui le ferait sans le vouloir et même sans le savoir. Porphyre, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le philosophe néoplatonicien, raconte une histoire vraiment instructive à ce sujet. Il s'agit des mercenaires déserteurs des Carthaginois qui sont assiégés par le général Hamilcar. Contraints par la famine de s'entre-dévorer et vaincus par Hamilcar, les survivants seront écrasés par des éléphants. Pas pour punir leur désertion, mais parce que, je le cite, Hamilcar considérait qu'il ne pouvait plus, sans sacrilège, se mêler aux autres hommes. Fin de la citation. Donc c'est vraiment l'acte de cannibalisme qui les a contaminés. Dans la perception des auteurs grecs et romains, une victime humaine n'est donc pas l'équivalent d'une victime animale. Choisie d'une manière exceptionnelle, ni divination par les entrailles, ni consommation des parties de son corps ne sont considérées comme des options acceptables pour des hommes civilisés, quelles qu'en soient les circonstances. Cependant, avertissent les auteurs anciens, si les hommes civilisés s'abstiennent bien de ce genre de sacrifice, ce n'est pas le cas de tout le monde. À les croire, il semblerait que plus on s'éloigne de ce qu'ils considèrent comme le monde civilisé, plus les pratiques deviennent étranges, comme si l'éloignement physique de la civilisation s'accompagnait d'un éloignement moral des bonnes pratiques religieuses. Ainsi, au-delà des cercles des voisins immédiats, des Égyptiens, des Phrygiens, des Perses, auxquels ils reconnaissent des pratiques plus ou moins semblables aux leurs, vivraient ainsi des barbares, d'abord ceux qui pratiquent des sacrifices humains sans festin, un peu plus loin, comme les Massagètes, par exemple, vous les voyez au nord, ceux qui font des sacrifices humains et avec la chair de leurs victimes, ils font des ragoûts, et encore plus loin, tout à l'extrémité du monde, ceux qui ne connaissent ni le sacrifice, ni même la cuisine. Non seulement ils sont cannibales, mais en plus, ils mangent leurs victimes tout cru. D'ailleurs, parmi ces derniers se trouve un peuple qui s'appelle Androphagoi ou Anthropophagoi. Vous reconnaissez aisément notre mot anthropophage. À leur sujet, Hérodote déclare « Ils ont de tous les hommes les mœurs les plus sauvages, ils n'observent pas la justice, ils n'ont aucune loi. » Fin de la citation. L'anthropophagie étant ainsi associée dans l'imaginaire de nos auteurs au désordre et à la mauvaise religion, et encore plus à l'absence de loi et à l'absence de religion, il n'est pas surprenant qu'ils prêtent des pratiques pareilles non seulement à des peuples qui habitent loin, mais aussi à certaines personnes, à certains groupes qui habitent à l'intérieur de leurs frontières, mais qui se passent volontairement en dehors de leur société. L'image des barbares anthropophages se reflète ainsi dans l'image des sorciers, des brigands, des conspirateurs, des tyrans, de certains philosophes et des adeptes de certains cultes étrangers. Ceux-ci seront tantôt décrits célébrant des sacrifices humains cannibales en secret, bien évidemment, c'est très important, comme par exemple les conspirateurs autour de Catilina ou encore des Juifs. On peut les voir étancher leur soif de sang par le sang humain, par exemple pendant une rébellion, encore une image qui est liée aux Juifs. Et parfois aussi en confectionnant des potions avec diverses parties du corps de leurs victimes. D'ailleurs, en fait, c'est ce dernier groupe qui est le plus grand, même beaucoup plus grand, que le cercle, somme toute, assez restreint des sorciers ou des magiciens. En effet, à en croire des traités médicaux antiques, sang, moelle, cervelle, cheveux, ossements, fiels, excréments et rognures d'ongles humains entrent dans la composition de recettes, disons, magico-médicales, utilisées même par les bons citoyens. Les maux que ces médicaments sont appelés à guérir vont depuis la simple rage de dents jusqu'à l'épilepsie, en passant par la cataracte, la goutte ou encore la rage. Mais bien évidemment, ils peuvent servir aussi de potions d'amour ou de poison. Je ne sais plus qui a demandé, qui a parlé ce matin de pharmaca. Donc, on est vraiment dans le double sens de pharmacone, qui est à la fois positif et à la fois négatif. Les traités médicaux qui ont gardé la trace de ce genre de médication montrent la plus grande méfiance à leur sujet. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne mettent pas toujours en cause leur efficacité. Ainsi, Pline l'Ancien, qui consacre un chapitre dans son Histoire naturelle à ce genre de remèdes, ne dit pas qu'ils ne sont pas efficaces. Il ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser parce que, de toute façon, ça ne sert à rien. Il dit, texto, « Nous ne pensons pas que la vie soit à ce point désirable qu'elle vaille d'être prolongée par n'importe quel moyen. Qui que tu sois, tel que tu es, tu n'en mourras pas moins, même après avoir vécu en impie ou en sacrilège. » Il n'est pas le seul à le penser. Un autre auteur romain, Valère Maxime, exprime la même conviction au sujet de cannibalisme de survie qu'il attribue uniquement à des rebelles. Donc, à son sens, et là non plus il n'a pas le seul à penser, si les Romains sont dans une situation d'extrême famine, soit ils meurent, soit ils trouvent un moyen normal pour survivre, mais ils ne vont certainement pas manger des cadavres ou encore moins tuer leurs propres enfants ou leurs femmes pour survivre. C'est là où Valère Maxime s'écrit « La nécessité ne peut servir d'excuse. Quelle nécessité de vivre à ce prix quand on est libre de mourir ?» Quand même. Encore plus curieux, on retrouve le même argument chez un troisième auteur, Tertullien, qui a la particularité d'être un auteur chrétien qui, à la fin du IIe siècle, l'utilise avec un sarcasme acerbe pour dénoncer l'absurdité des accusations portées contre les chrétiens. Ça vaut la peine de citer ce passage. « Viens, plonge le fer dans le corps de cet enfant qui n'est l'ennemi de personne, qui n'est coupable envers personne, qui est le fils de tous. Ou bien, si un autre doit accomplir cet office, toi, va donc voir cet homme qui meurt avant de vivre. Attends que cette âme toute neuve s'échappe. Recueille ce jeune sang, trempe-y ton pain, repétant avec délice. Initié à de pareils mystères, revêtu de ce sceau, tu vis éternellement. Réponds-moi, je le veux, si l'immortalité vaut ce prix. » Aussi surprenant que ça puisse paraître, la réputation de cannibalisme rituel des chrétiens semble faire partie des crimes qui font objet des investigations officielles lors des procès des persécutions tout au long du IIe siècle. Bien que certains juges consciencieux font bien leur enquête et reconnaissent que, quoi qu'on en dise, leur nourriture est ordinaire et innocente, comme le formule Pline le Jeune, d'autres préfèrent croire la rumeur qui prête aux chrétiens des relations oedipiens et des festins de Tieste, c'est-à-dire des orgies incestueuses et des repas anthropophagiques. Les apologistes tentent de trouver les bons arguments pour convaincre les autorités de leur innocence, pas seulement sur ce point, mais en général pour expliquer qu'ils sont des bons citoyens et qu'ils ne font rien de mal. Apparemment en vain, puisque jusqu'en 313, les persécutions continuent. Pourtant, quelque chose change entre la fin du IIe et le milieu du IIIe siècle, car à ce moment-là, Origène parle de cette accusation comme quelque chose qu'il a connu dans sa jeunesse, mais qui ne fait plus recette au moment où il a écrit son contre-celse. Bien sûr, on ne peut pas savoir pourquoi c'est passé. Je ne peux que lancer une hypothèse. Si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais je trouve ça plutôt convaincant. C'est que la stratégie des apologistes a enfin marché. Ça a pris du temps. Une stratégie vieille comme le monde, qui consiste à détourner les soupçons de soi en jetant quelqu'un d'autre en pâture à la rumeur. Il ne faut pas oublier que les chrétiens de l'Empire étaient quand même les citoyens de l'Empire. Ils avaient la culture grecque et romaine. Il partageait donc l'opinion commune selon laquelle l'anthropophagie était un crime impardonnable en toutes circonstances et que c'était lié à la magie noire, à la superstition et à la rébellion contre l'ordre établi. Aussi, le fait d'être faussement accusé d'actes de cannibalisme ne les a pas ébranlés dans cette conviction et ne les a pas du tout empêchés d'être des accusateurs à leur tour. La cible était toute trouvée, l'explication était très facile à trouver. En fait, les adversaires étaient trompés, parce que, bien sûr, les bons chrétiens ne sont pas des cannibales, ils ne tuent pas des petits-enfants. En revanche, il y a des gens qui s'intitulent chrétiens, mais qui ne sont pas des vrais chrétiens. Ce sont des hérétiques. Bien évidemment, pas tous les hérétiques, mais puisqu'ils détournent les enseignements du Christ, ces gens-là, comme ils les appellent, ils pourraient se livrer à des pratiques qui vont du ridicule jusqu'au criminel et qui peut, dans des cas extrêmes, inclure des repas sacrilèges autour du corps déchiqueté d'un enfant. Par exemple, Cyrille de Jérusalem raconte à propos du fondateur du montanisme, un certain Montan, il égorge d'infortunés petits-enfants et les coupe en morceaux pour une criminelle nourriture sous prétexte de ce qu'ils appellent leur mystère. Et il ajoute, juste pour ceux qui ne l'auront pas compris, « Voilà pourquoi, jusqu'à ces derniers temps, dans la persécution, on nous soupçonnait de ce forfait, vu que les montanistes, portant mensongèrement le même nom que nous, étaient appelés eux aussi chrétiens. » Il y a plusieurs d'autres versions de cette accusation. Par exemple, les phibionites étaient censés préparer des oblations avec des embryons avortés. Ou encore, toujours les montanistes étaient également censés pétrir du pain avec de la farine, avec du sang d'un enfant sacrifié. D'ailleurs, cette dernière forme de l'accusation connaîtra une postérité assez prolongée, beaucoup trop prolongée. D'ailleurs, les hérétiques ne sont pas les seuls que les chrétiens traitent de cannibales. Ils réinterprètent bientôt tout culte et toute culture autre que la leur comme potentiellement, sinon réellement, anthropophagique. Nous avons vu que le cannibalisme, dans la vision du monde des Grecs et des Romains, est le signe ultime de l'altérité et même d'une altérité malveillante. Les chrétiens le comprennent très bien. Dès son apparition, le christianisme doit se positionner par rapport aux autres, et ce positionnement passe tout naturellement par l'appropriation du statut de non-cannibale, et ce d'autant plus qu'effectivement, il se retrouve dans le camp des cannibales. L'Église a besoin de se définir comme l'unique dépositaire de ce qui rend l'homme humain, avec un H majuscule. Et tout comme les Grecs et les Romains auparavant, elle doit d'abord désigner ceux qui ne sont pas humains et l'image des anthropophages leur servira pour stigmatiser leurs adversaires. Bien évidemment que les chrétiens cessent d'être accusés d'anthropophagie, l'Église récupère donc ce motif pour le retourner contre ceux qui lui résistent, d'abord les païens et les hérétiques, ensuite à partir du XIIe siècle contre les juifs, puis lors de la découverte du monde contre les indigènes des continents que les armées chrétiennes sont en train d'envahir. Mais c'est une autre histoire qui déborde très largement des cadres de cet exposé. Je vous remercie de votre attention.